Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Max au 39-21. Bonsoir Max.
Oui, bonsoir Olivier.
Bonsoir, comment allez-vous Max?
Enchanté, merci déjà à toute votre équipe, ils sont adorables.
Merci, bah écoutez, ils vous écoutent,
oui.
Donc
je vois
je vois les sourires illuminer leur visage, donc merci pour eux. Alors dites-moi tout Max.
Les grandes lignes d'une vie qui peut basculer dans un handicap.
Oui.
Moi, c'est la cécité, qui est survenue malvoyant et non-voyant, hein, c'est un découlement.
Oui.
Très rapidement, j'avais 51 ans quand ça m'est tombé dessus. D'ailleurs, j'ai pensé à vous l'autre jour quand vous avez évoqué vos parcours de moto en toute quiétude dans Paris. Et moi, j'en ai fait pendant des années de la moto à Paris.
Oui.
J'habitais Levallois, j'avais un bureau à Levallois et voilà.
D'accord,
et
ouais,
ça m'a touché, oui.
C'est agréable, oui.
Oui. Beaucoup de motos. J'ai eu 17 motos. Ben bon, voilà, c'était juste une petite glissade.
Ouais.
C'était une passion qui est partie, forcément. Voilà, donc il m'est tombé cette maladie. J'ai dû arrêter, bien sûr, les activités, enfin, toute activité professionnelle.
Quelle maladie?
Glaucome.
Max, en fait.
J'ai fait un glaucome masqué, ce qu'on appelle mal dépisté.
Oui.
Ce que je tiens à dire à tous les gens qui peuvent écouter votre émission, à 45 ans, n'hésitez pas tous les ans, même si vous avez une très bonne vue, d'aller consulter une fois par an un ophtalmo, c'est très important. Voilà, ça s'appelle le dépistage du glaucome, qui est le numéro un mondial de la cécité. Et s'il n'y a aucune douleur, c'est masqué, on sent rien.
D'accord.
Moi, j'ai rien vu venir. J'avais jamais consulté, c'est surtout ça.
Et vous n'aviez pas spécialement plus de problèmes de vue, je suppose?
J'avais des petites des déclinaisons de petits caractères que je vais... Vous savez, quand des fois, on n'écoute pas un peu... J'étais dans une pharmacie à Levallois, puis j'ai eu un petit copain de ce pharmacien, il m'avait donné des loupes, vous savez, des 1-5 au début.
Oui, oui.
À 50 ans, je ne vois plus les petits caractères, je ne me suis pas appelé, mais il fallait consulter, tout simplement. Ben, voilà, donc j'en faisais depuis 15 ans, d'après les spécialistes. Après, bien sûr, j'ai tout déclenché, le pourquoi du comment. Et... Bah, c'est génétique. Après, j'ai appris qu'un arrière-grand-père était aveugle en Italie. Voilà, ma maman est soignée depuis 30 ans. Elle a dû en parler entre la poire et le fromage. Elle a survolé ça, mais elle l'a stabilisé, son glaucome.
Personne voilà. Ne vous avait vraiment...
Non, pas du tout. Oui, tout à fait.
Alerté. C'est dingue.
Oui, c'est dingue. Mais bon, je ne veux pas rentrer dans vouloir à qui que ce soit. C'est comme ça. On peut toujours, après, dire, tiens, c'est la faute des autres. J'avais qu'à consulter, voilà, à partir de 45 ans, pour le savoir, il faut aller chez l'ophtalmo une fois par an. Ça coûte un coup de carte vitale, voilà.
Oui, oui. Au même titre, voilà. Au même titre, me direz-vous qu'il faut aller aussi chez un spécialiste de la peau. Toutes les personnes comme moi, j'ai, vous avez une peau où j'ai plein de petits grains de beauté, enfin, en tout cas,
oui.
Plein de. Voilà, et c'est vrai que chaque année, je m'impose d'y aller. Parce que on tous les étés, on s'expose au soleil. Hein, et puis, plus on vieillit, plus on peut ne pas faire attention à ça.
Et
il a fallu en fait que j'ai un ami surfeur qui habitait du côté de Soulac, là-bas, dans le sud-ouest. Et qu'il tombe vraiment gravement malade, en fait. Et c'était un gars qui surfait tous les jours, vous voyez, qui était en pleine forme, qui avait une vie très saine. Mais finalement, il surfait sans protection, vous voyez, il surfait torse nu. Et voilà. Il ne s'est pas testé, il n'a pas regardé sa peau. Et voilà, il a déclenché un cancer de la peau. Donc, c'est vrai que chaque année, une petite visite qui va prendre deux heures de temps peut éviter bien des gros problèmes.
Et ça peut sauver beaucoup de choses.
Ouais.
Donc moi quand j'ai dépisté, ça s'est passé en moto d'ailleurs. Hein. J'étais avec un chapteur, parce que j'ai fini avec une marque très connue. Hein.
Ouais.
C'est papa, qui n'a pas de frein mais qui pétarade. J'étais avec un chapteur, on faisait une sortie. Une grosse sortie avec la région Rhône-Alpes, et puis moi j'ai pas pu suivre le groupe. J'avais mon frère aîné qui était là avec son épouse, qui était aussi dans cette marque-là. Ils m'ont rejoint loin derrière, et ils m'ont emmené aux urgences. Et là j'étais scotché, quoi. J'étais au bord de Saône, à Mâcon, à la ville de Mâcon. Ils sont violents, les ophtalmologistes, ils ne trouvent pas les mots. du moins, ils ne les cherchent pas avec des gants. Ils m'ont dit aveugle, maxi deux ans, monsieur. Oh,
ah oui, là, ils vous ont dit ça comme
ah,
ça.
Ah oui, direct. Alors, ce qui m'a sauvé, ce qui est fou, c'est que je suis... Bon, bah après, ça bascule, hein, donc on se réorganise pour un moment essayer de faire face à cette chape de plomb qui tombe.
Oui.
Et je me suis dû me sentir mal 2-3 jours, oppressé, vous voyez, moi qui ne suis pas un angoissé.
Oui.
J'avais le sternum qui me serrait. Alors, ce qui m'a sauvé, c'est les acquis, c'est les fondamentaux, c'est le parcours. Et je me souviens, j'avais 16 ans, un premier Dan à Semur-en-Auxois. J'ai été glané et cherché, 5 combats, 5 épons de suite. Je me suis souvenu de la regard de mon grand-père qui m'avait dit « Travaille tes points faibles, ce sera ta force. » Et papy est parti depuis très longtemps. Et je me souviens de cette phrase-là. Et ce jour-là, j'ai gagné la ceinture à 16 ans et je me suis dit « Mais merde, c'est pas cette société qui va me foutre. » Ils pondent à moi, quoi. Non, pas moi, quoi. Donc je me suis battu tous les jours que Dieu fait.
Oui.
C'est un travail au quotidien. Je fais pas le malin, c'est vraiment un travail au quotidien. Il faut une force qu'on a en soi ou pas. Pas d'assistanat, je tiens à dire. Pas d'assistanat, c'est pas bon. Ne pas prendre le bras de quelqu'un, c'est la perte.
Oui.
Pour travailler la canne, travailler, sortir. Puis après, il vient des constats, malheureusement, Olivier, qui sont naturels de dire... la cécité fait peur, on est dans l'isolement, c'est vrai. La vie amoureuse, tiens, je voulais parler de l'amour et l'handicap, c'est très compliqué.
Justement,
on fait des rencontres sans lendemain.
Justement, Max, on va marquer une courte pause et puis on va évoquer justement la difficulté aujourd'hui de vivre avec un handicap et d'établir des relations amoureuses, voire des relations très forte, amicale, mais on en parle dans quelques instants. À tout de suite.
Merci Olivier. Oui.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
C'est votre libre antenne qui vous accompagne, 22h44 en direct jusqu'à 1h du matin. Soyez les bienvenus chez vous, car ici, Europe 1 est votre radio à vous, et c'est votre parole qui prime comme celle de Max ce soir, qui nous parle de sa vie, qui nous parle de ce glaucome qui l'a saisi il y a 7-8 ans maintenant et qui lui a fait perdre complètement la vue. Nous nous apprêtions, Max, à évoquer la solitude dans les relations amoureuses lorsqu'on est une personne qui souffre d'un handicap. Du jour au lendemain, ça a été compliqué pour vous ?
Pratiquement, il y a guère de différence entre mal et non-voyant, puisqu'on ne voit plus les visages. Et surtout, le code des yeux, le codage des yeux naturels, qu'on ne se rend pas compte, que moi, maintenant, j'ai analysé, j'ai cerné. Vous savez, les mots bleus de Christophe, ce n'est pas innocent qu'il écrit ça.
Ah bon ? Dites-moi, pourquoi ?
Les mots qu'on dit avec les yeux, on se parle quand deux êtres se rencontrent, qui ne se connaissent pas, ils s'envoient de ces messages avec les yeux.
Oui, c'est vrai. C'est que les yeux
on peut tout se dire avec les yeux. Ouais. La peur, le moral, l'envie de faire des choses.
Oui.
C'est extraordinaire, les yeux, le regard. C'est extraordinaire.
Oui, c'est ça. On n'a pas conscience de tout ça. Hein.
C'est ça. C'est exactement ça. Tant qu'on voit, on ne sait pas. Et quand on ne voit plus, on se dit, merde, je passe à côté de tout ça maintenant. Et puis faut être franc et être sincère. De plus voir une femme, c'est bouleversant, quoi. C'est c'est vraiment dur, quoi. Voilà. Après, voilà, il y a sûrement des codes à trouver que je connais pas en tant que déficient visuel sur le tard. Voilà. Et puis je fais confiance à la vie. Je me dis qu'un jour ça va s'ouvrir. Il y a pas de raison. Je fais confiance à la vie. Voilà. Je cherche pas. Je vais pas sur les sites. Il y a des sites spéciaux déficients visuels. Voilà, c'est pas mon truc, c'est pas. Je suis plus un gars qui a envie de dire tiens, on va faire un tour de tandem, on va à la piscine, et puis voilà, on finit par le marché, puis si la vie elle va s'ouvrir, elle s'ouvrira, puis voilà. J'en suis là, je vis. J'avoue, je cherche pas, quoi. Voilà.
Et aujourd'hui, quelles sont vos. Les possibilités justement que vous rencontriez quelqu'un, est-ce que votre tissu social, vous avez des amis, vous avez des activités quand même qui laissent espérer. Alors, que ça soit possible
quand on quitte le monde du travail. Moi j'étais indépendant, j'étais libéral dans un métier c'était du commerce sur des gros marchés. Forcément, dès qu'on décroche avec ce monde-là, il n'y a plus de coup de téléphone, hein, on n'est plus dans le milieu. Alors après, ça fait le grand vide. Les amis d'enfance, c'est pour ça que je suis revenu dans la ville où je suis. J'en reviens au judo, où j'ai grandi là, la première ceinture noire à 16 ans, comme je vous disais. Je me suis dit, je vais tout retrouver les copains de judo. On était dans la même équipe de Bourgogne pendant des années, jusqu'à 29 ans, j'ai arrêté la compète, moi. Ouais. Et finalement, alors quand j'appelle les gens, Olivier, ils viennent. Oui. Il faut être franc, il faut être sincère. Quand j'appelle un ami, un copain, je ne sais pas si c'est le mot ami, parce qu'ami, on se perd vite de vue, ils sont là, voilà, les relations sont là. Mais ça ne vient pas d'eux, quoi. L'handicap, ça isole, quoi. C'est vrai que...
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Parce qu'ils se disent, tiens, il ne vient plus en moto, il ne vient plus avec son petit cabriolet de collection qu'il avait restauré. C'est plus le même, quoi. Hein. Je suis passé du gars dynamique à... Ah ben, le gars qui arrive avec une canne, quoi.
C'est-à-dire, vous savez, je sors, justement, aujourd'hui, c'est la journée internationale...
Internationale handicap.
Voilà, des personnes handicapées, et je sors, j'ai présenté une soirée au Musée de l'Homme avec la secrétaire d'État, justement, et j'ai fait des interviews de personnes souffrant d'un handicap, et on a évoqué cette solitude, et justement, souvent, finalement, cette solitude, elle est provoquée par les autres parce qu'il y a une sorte de gêne. Vous voyez, c'est tabou, c'est en ça. Fait. Aujourd'hui, les personnes qui souffrent d'un handicap, presque ce sont les autres qui sont gênés, en fait, et qui ne savent pas comment se comporter. Alors que tout un tas de personnes qui souffrent d'un handicap, le premier souhait qu'elles ont, c'est qu'on les considère comme les autres, quoi.
Je vous fais une aparté, j'avais même un couple que quand je sortais de Paris, je faisais de la moto en Bourgogne, j'étais reçu, c'était comme des frères et sœurs, quoi. Et ben, la première chose quand je suis arrivé chez eux, où je connaissais toute la maison par cœur, parce que je passais les week-ends, et j'ai travaillé pour les aider à la restaurer, tout ça, et 4 hectares de terrain, où il y a le boulot qu'on avait. Ouais. Et elle planquait les bibelots quand je suis arrivé. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais, Pat? Je dis, attends, je vais pas te les péter, tes bibelots, je connais ta maison. Non, mais elle me dit, si tu touches quelque chose. Et puis après, elle s'est excusée, elle s'est dit, merde, je deviens quoi? Mais je dis, non, voilà, tu l'as fait, c'est pas grave, tu me l'as dit, au moins t'es franche.
Ouais,
mais vous voyez le réflexe?
Ouais, ouais.
Il va arriver, il va nous péter.
Ouais, c'est sûr que c'est pas terrible.
Mais non, mais c'est pas méchant, en plus. C'est... Mais vous voyez comme quoi que l'handicap peut être très mal perçu. Lorsqu'on ne le connaît pas.
Oui, complètement, complètement.
Regardez, les repas que j'organise, c'est moi qui les fais.
Oui.
Il y a très peu de gens qui m'invitent, finalement, même des gens que je connais, qui m'invitent à dîner ou des soirées. C'est moi, j'organise. Là, je sais qu'il y a du monde, et c'est moi qui prépare, quoi. Bon, après, ils mettent tous quand ils sont là, bien sûr. La présentation des assiettes, je ne suis pas très bon. Mais la cuisine, c'est moi qui la fais. Je fais mon marché, la vie n'a pas changé, vous savez, on garde tout en mémoire, c'est ça qui est extraordinaire. Quand on a eu la vue, on garde tout en mémoire, tout.
Ah oui, on garde tout en mémoire.
Ah oui, ouais. Tout. Si je vous ai vu une fois, Olivier, je sais, quand je croise un copain que je connais, suffit que cet après-midi, je faisais une balade dans ma ville, et j'ai à la voie, dans la rue piétonne, où il y avait beaucoup de monde, puisque c'est le début de Noël, des achats de Noël,
ouais.
Et il y a un gars avec une voix de loin, comme ça, et de loin, hein, il venait vers moi, et de loin, je l'ai entendu, et arrivé à 20 mètres de moi, je lui dis, tu l'as passé en deux fois, ton deuxième Dana, et il m'a embrassé, il me dit, tu m'as reconnu, bah, je lui dis, bien sûr, je lui dis, ta voix, elle est porteuse, je lui dis, on a grandi ensemble, sur un tatami, quoi.
C'est fou, comme le cerveau enregistre plein de choses qu'on ignore, hein, finalement. Hein.
C'est un disque dur, Olivier, extraordinaire, qu'on
ouais,
a. Hein.
Ouais. Et vous êtes reparti en province, du coup? Vous habitez en province?
Oui, pour l'instant, je suis en province. J'ai pas dit... Alors, c'est là où je suis quand même ceinture blanche en décision.
Ouais. Bah oui, pourquoi vous dites pas où vous êtes? Pourquoi
moi,
c'est embêtant?
Je suis en Bourgogne.
D'accord.
Voilà, je suis dans une région sympa. Mais j'ai décidé en plein de fois de partir.
Pourquoi ça?
De rechanger de... Oh, parce que j'ai des origines lointaines dont je porte un nom. Mon grand-père était grec, oui. Et côté maman, c'est des Italiens. Nous partir, ça allait vers le mieux. Je pense que j'ai les gènes de la famille. Il y a 2 ans, il y a 4 ans, j'habitais à Ajaccio. Je suis parti 2 ans là-bas.
Oui.
Voilà, j'ai vu que c'était pas fait pour les non-voyants, mais j'ai été accueilli, voilà, les grands bras ouverts. Je les salue, les Corses, parce que j'ai jamais fait le marché, route des Sanguinaires, où j'habitais, arrivé sur la place du marché, jamais fait le marché tout seul en Corse, je tiens à le dire fort et dur. Alors que là où je vis, on me laisse tout seul avec une canne blanche sur le marché.
Les Corses ont un sens
c'est extraordinaire.
De l'hospitalité inégalée. Je suis à moitié Corse en plus, donc j'ai toute une partie de ma famille. Ouais, il y a toute une partie de ma famille, donc c'est vrai que, d'ailleurs je salue la Corse aussi, j'en profite pendant que vous la saluez. Mais c'est vrai qu'en Corse, les gens sont extrêmement chaleureux. Voilà, on représente souvent la Corse sous un autre angle, alors que c'est une terre d'amitié et une terre d'accueil immense. Et vous aviez habité 2 ans là-bas, puis vous êtes reparti, du coup.
Voilà, j'avais contacté à Paris une grande association nationale qu'on peut citer, s'appelle Valentin Oui, que là, on va dire la plus importante, rue du Roc, dans le 7e.
Ouais.
C'est national, ils ont des comités dans toute la France. Je les avais contactés, j'avais le responsable des comités. Bon, des marchés, c'était mon truc, vous l'avez compris, moi je cherchais des budgets, donc... Ouais. Donc j'ai appelé Paris, le siège, j'ai demandé le responsable des comités de France. À l'époque, c'était Monsieur Pogam, adorable monsieur, qui m'avait reçu avec tout un staff à Paris. Et je leur dis, voilà, je voudrais vivre en Corse. J'ai fait 30 ans de moto de tour en Corse. Je leur ai dit, voilà, je ne sais pas si je vais rester, mais si je peux donner un coup de main pour la Corse, pour les non-voyants, je le ferai. Ils m'ont donné 2 noms. Une dame, Françoise, que je suis en relation en Corse, qui est sympa. Et puis surtout Joseph Nunzi, paix à son âme, qui est décédé. Et quand je suis arrivé à Ajaccio, son cousin direct, c'était le maire d'Ajaccio. C'était une chance inouïe.
Et pourquoi vous dites que rien n'est fait pour les non-voyants là-bas, alors?
Parce que là-bas, il y a tout à faire. Et toute la difficulté de la Corse, c'est la géographie. Quand on pense qu'il faut entre, je crois de mémoire, c'est 3h30 ou 4h pour faire Bastia, Ajaccio en train.
Ouais.
Corté, c'est le centre où il y a l'université. C'est très compliqué. Et puis, il faut être sincère, Olivier. Il faut se le dire dans les yeux. Ils s'aiment pas entre eux. Quand vous êtes à Ajaccio, faut pas. Quand vous êtes Place Paoli à Corté, faut pas parler que vous habitez à Ajaccio. Là-bas, c'est Paoli, les autres, c'est Napoléon. Ils s'aiment pas entre eux.
Comme les Parisiens et les Marseillais, quoi.
Voilà, qui s'aiment entre eux, et peut-être qu'un jour, on fera quelque chose pour tous les déficients visuels corse, ça c'est important. Mais mon Dieu, il faut qu'ils s'aiment entre eux, quoi. Autrement, on n'y arrive pas, c'est ce qui s'est passé. Moi, je n'y suis pas arrivé parce que j'ai senti que, voilà, ça...
Connaissant les Corses, ça ne va pas changer du jour au lendemain, ça, à mon avis.
Non, il y a tout un historique... d'ailleurs, faut y habiter à l'année pour comprendre la Corse.
Vous voyez, je savais pas ça. Alors, je suis à moitié Corse, mais alors j'y suis allé de temps en temps en vacances. Mais alors, quand j'étais tout petit, en plus, et j'y suis retourné pour les tournages. Et j'ai trouvé ça, mais bon, bien évidemment, magnifique. Et les Corses tellement accueillants partout où on allait. Et vous voyez, je n'étais qu'un étranger qu'on accueillait, et ça, ils savent très bien le faire, les Corses. Et je ne savais pas qu'entre eux, ils étaient aussi...
Non, je me souviens...
Incroyable.
J'avais sympathisé, j'avais fait une rando au Montecinto, c'est le plus haut sommet de la Corse, le plus haut sommet de la Corse, à 2700 mètres au-dessus de Corté. Il y a une association, pour faire vite, qui m'avait contacté, qui prenait... Alors, vous allez comprendre tout de suite... Ils développaient la géolette. Alors la géolette, ça ne va pas vous parler, Olivier.
Non.
Mais vous allez comprendre tout de suite. Devant, on met un paralysé sur un fauteuil un petit peu amélioré pour faire du tout-terrain.
Oui.
Donc devant, il est assis sur son fauteuil de, on va dire, tout-terrain.
Oui.
Et qui c'est qui pousse derrière? Qui, lui, a les jambes, et puis les bras, et puis de la force, mais qui n'a plus la vue, c'est un déficient visuel. Et
d'accord.
Le binôme, ça fait, c'est génial, quoi.
Ah oui, c'est génial, ça.
C'est ça. Voilà. Et on a créé un concept pour... Donc, je suis parti quelques jours, c'était super, on a couché dans les berges de Sador, il y avait toute l'ambiance était là. Et je me souviens qu'on est rentré dans un petit bar, Place Paoli, qui donne sur la Place Paoli à Corté, le Cirnea pour le nommer. Et je suis rentré, on était tout un staff, les encadrants, et j'ai dit à tout le monde, bonjour, je suis à Ajaccio, et il y avait le grand silence, quoi. Et il y a un gars qui est venu vite fait vers moi, il était de Toulouse, retraité, qui vivait à Place Paoli. Il m'a dit, tu es pas d'Ajaccio. Il me dit, tu es de passage à Ajaccio. Oui, oui. Et puis il a rigolé.
Ah ouais, d'accord.
Voilà, ils s'aiment pas.
Bon, c'est pas la folle ambiance. Bon,
non, non, c'est pas le.
Et du coup, dans les semaines à venir, là, par exemple, pour Noël, vous faites quoi?
Je suis seul.
Ah, vous êtes seul.
Je suis seul parce que j'ai été marié 7 ans.
Oui.
J'ai le bonheur de lui, je l'ai au téléphone, c'est mon fils aîné qui est kiné, diplômé des hôpitaux de Paris, la Riboisière, qui est devenu ostéopathe diplômé de Lyon, et il est installé dans la Drôme.
Ouais.
Malheureusement, je ne les ai pas élevés, mes enfants. Quand nous sommes séparés, ils étaient tout petits.
Ouais.
Mon fils avait 6 ans et ma fille avait 3 ans. Ils ne sont pas présents. Alors, si mon fils, quand je l'ai au téléphone, il me prend au téléphone... Il a beaucoup de boulot, il s'est installé, il a des employés. Et lui, il m'a dit une phrase terrible. Il m'a dit, quand je suis tombé non-voyant, j'étais à Ajaccio quand j'ai perdu la vue complète. J'étais complètement en plein soleil, en pleine journée. Ça s'arrêtait net. Donc je suis rentré péniblement avec un monsieur qui m'a accompagné en scooter. Et j'ai appelé mon fils, je lui ai dit, Julien, je suis non-voyant. Et la première chose qu'il m'a dit, pas, je serai pas là, tu sais, je serai pas là, je peux pas, Déjà, je ne sais plus où tu es. Puis, il m'a dit, t'es fort, t'es trop fort, tu vas remettre le kimono. Écoute-moi bien, il m'a dit, tu remets le kimono dans ta tête tout de suite. Tout de suite, tu remets le kimono dans ta tête.
Max,
tout de suite.
Max, on va encore marquer une pause.
Oui.
Le temps du flash, des informations.
Oui.
Et puis, on se retrouve dans quelques minutes, d'accord?
Et après, vous me donnez des ficelles. Hein.
Ah, carrément. C'est pour ça que je vous reprends après le flash. À tout de suite.
Merci, Olivier.
Vous aussi, laissez votre message à Olivier Delacroix au 739-21. 75 centimes plus coût du SMS. Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Sur Europe 1 et c'est toujours votre libre antenne jusqu'à 1h du matin en direct. Vous composez le 39-21, 50 centimes d'euros la minute pour nous joindre directement ou vous nous écrivez à libreantenne@europe1.fr. Vos conseils, vos remarques, vos questions au 739-21 suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules suivi d'un espace. Nous sommes toujours avec Max qui, si vous nous rejoignez à l'instant, nous parle de sa vie, de ce glaucome qu'il a saisi il y a 7 ou 8 ans et qui nous parle de sa difficulté à établir une relation amoureuse. La vie depuis 7-8 ans, il n'y a rien eu, Max? Il y a quand même eu des choses. Dites-moi, dans quel contexte?
Il y a quelques rencontres sans lendemain, on va dire, mais sans construction, quoi. Vous savez, Olivier, je pars d'un principe, c'est la boussole du cœur qui commande tout, qui pilote tout.
Oui.
C'est le sentiment. Mon grand-père grec disait, tu peux coucher avec la plus belle femme du monde, si tu l'aimes pas, c'est pas la peine.
C'est clair.
C'est tout.
C'est clair.
Faut être amoureux, c'est tout. Le but, c'est d'être amoureux, c'est tout. Pourquoi on aime une personne, je sais pas, ça c'est... C'est un autre débat. Mais voilà, je n'ai pas rencontré l'amour avec qui j'aimerais partager plein de choses. Mais j'ai espoir, heureusement d'ailleurs. 59 ans, je ne veux pas attendre qu'on me mette dans un EHPAD parce que je n'irai jamais. Je ne m'enfermais pas là-bas dedans. Hein.
Et vous me disiez que vos enfants ne passeront pas Noël avec vous.
Oui, c'est l'isolement au niveau familial. Parce que mes parents étaient divorcés, Olivier. Ils ont divorcé sur le tard, ils avaient 60 ans.
Oui.
Et moi, papa, je dis bien papa, c'était un ami, un frère, un confident. Il m'a tout donné. Depuis l'âge de 14 ans, il avait été imprimeur. Voilà mon métier. Depuis l'âge de 14 ans, je l'ennuyais avec les motos. Je dis papa, je veux une 125. Il me dit tous les ans, il me disait tu l'auras. Mais depuis l'âge de 14 ans, pendant les vacances scolaires, je travaillais à l'usine avec lui. À partir de 16 ans, il m'a pris en apprenti. Il m'a tout donné, tout son savoir. Et à 23 ans, il m'a dit, il faut que tu ailles rentrer chez deux gros imprimeurs que j'ai contactés et tu t'installeras à Paris parce que toi, voilà ton domaine. C'est l'impression, mais commercial. Voilà. Il avait tout analysé chez moi. Donc, c'était extraordinaire, mon père. C'était, on passait des week-ends ensemble comme de, il montait derrière moi en moto.
Ah ouais, d'accord.
C'était un pote, il était extraordinaire. On m'en parle encore maintenant, hein, ce qu'il m'avait donné. J'ai eu quelques clients et ces clients, je les ai gardés comme amis. Et ils m'ont dit, ton père, c'était extraordinaire, quoi. C'était, vous voyez, il allait dans les usines de, il y a multi métiers dans l'impression. Il y a le façonnage, la finition. Il y a des gros façonniers. Vous savez, un imprimeur n'est pas forcément façonnier. Vous savez, pour façonner du livre.
Ouais.
Hein, bon. Bah, lui, il allait chez les plus gros façonnés, par exemple, chez Ronalp à Lyon, puisque nous sommes lyonnais à la base.
Ouais.
Et on m'en parle encore maintenant des entreprises qui ont 200 salariés. Et il rentrait dans l'atelier, il regardait le PDG, il disait, ton fluide de matière est pas bon. Pourquoi le son massicot, il fait ça. Sur l'année, c'est monstrueux le temps que tu perds. Et il allait derrière les machines, devant le gars, qui réglait ses machines toute l'année, et lui disait, pourquoi tu me la règles pas dans l'autre sens, ta machine? Donc il dit, pourquoi, monsieur? Parce qu'on gagne du papier sur l'année, c'est monstrueux. Il était toujours à l'affût de l'optimisation de la fabrication. C'était ça, sa force. C'est ce qu'il m'avait donné.
Mm-hmm. Et vous regrettez un peu de ne pas avoir réussi à établir ça avec vos enfants? Vous avez qu'un fils ou vous en avez
Non, j'ai une fille qui est infirmière cadre en psy, et elle m'a complètement tourné le dos, elle ne me prend pas de téléphone.
Ah oui, carrément. Bon.
Ouais, carrément. Oui, elle ne veut pas me parler pour des histoires de famille que je veux même plus entendre parler, parce que ce qui me concerne pas, c'est des rumeurs. Vous savez que de rumeurs, vous pouvez faire mal de pays.
Oui, puis ça sert à rien de perdre son temps pour des rumeurs.
Voilà, vous avez tout résumé. Ouais. Voilà. Si une fois je me suis fâché, j'étais avec Joseph, mon ami d'Ajaccio, on était en train de déjeuner, je lui expliquais ça, et on était rue Fèche, si vous connaissez un peu l'Ajaccio.
Non.
Il y a le cours Napoléon, il y a la rue Fèche et il y a le port. C'est trois parallèles. Mm-hmm. Rue Fèche, c'est la rue principale qui est que des commerces, il n'y a pas de voiture. Il y a le musée Fèche, c'est vraiment subi, un théâtre, etc. Donc je suis rue Fèche, je déjeune avec mon ami Joseph, et je lui parle de ça, puis j'avais un peu les larmes, j'avais un peu le cafard par rapport à ma fille. Et puis je raconte la rumeur, il me dit, tu bouges pas, avec son accent d'Ajaccio, tu bouges pas, il me dit, j'ai un ami qui est... Lui, il était malvoyant, il voyait les gens de près. Il me dit, j'ai un ami qui est à côté, là, qui boit un verre. Il me dit, je vais te le présenter, ça va calmer ta famille. Le monsieur vient vers moi, il s'assied, il m'embrasse sur le front, il me dit, vous êtes un ami de Joseph. J'ai écouté, il m'a dit, votre conversation. Il me dit, je suis ancien procureur d'Ajaccio. Donnez-moi les coordonnées de tous ces mondes-là. On va les convoquer, on va voir si vous êtes un menteur. Vous voyez, j'en ai jamais entendu parler. Il a fait, hein. Plus jamais personne m'a parlé de cette histoire. Vous voyez comme quoi, hein.
Mm-hmm. Alors,
quand on veut faire du mal, faut être prudent, hein.
Oui.
Parce qu'après on est convoqué.
Faut y aller mollo, exactement. Bon, mais alors, pour en revenir à vous, et aujourd'hui, vous dites que vous n'avez pas trop cherché sur les réseaux, sur les plateformes de rencontres, c'est pas votre truc. Vous éprouvez quoi par rapport à ça? Quand vous dites que c'est pas votre truc, ça veut dire quoi?
Alors Olivier, j'ai l'impression que ça fait marchand bestiaux.
Ouais.
Une fois, on m'a mis sur un chat parce que déjà quand j'avais la vue, j'y allais pas. Hein. Moi, c'était pas mon truc. Hein. Moi, j'ai toujours fait des relations. Ouais. Bon, mais une fois, j'ai un ami qui est fort en informatique. Il a vu que j'avais des synthèses vocales sur mon ordi, deux principales. Il les a testées vite fait, mais lui, il est très fort. Il m'a dit oui, c'est bien. Il me dit, tu maîtrises bien. Il me dit je vais t'installer une application. Il me dit tu vas pouvoir te chatter pour voir. On a essayé, je me suis pris au jeu, quelques soirs j'étais dessus. Oh, il y a un moment, j'ai dit, mais je suis en train de me vendre, là, comme un idiot, là. Non, c'est pas mon truc. J'ai arrêté net.
Mais ça m'intéresse pas.
Sans développer.
Si on regarde les choses vraiment dans la réalité aujourd'hui et qu'on se baratine pas tous les deux, c'est vrai que si vous n'avez pas une vie sociale super développée, si. Ces sites, c'est compliqué. Et j'en parlais ce soir avec pas mal de personnes qui étaient présentes là à l'événement dont je vous parlais. Et ça revenait régulièrement, cette histoire de site qui fait que au début, c'est certain qu'on a l'impression de se vendre, on a l'impression. Si on n'est pas habitué à ce genre de choses, vous voyez, c'est vrai que il y a un problème de pudeur aussi. On a l'impression de vous avez dit, d'être un peu, de se vendre un peu comme une bête, quoi. Mais quand on regarde bien la réalité en face, Max, il y a tout un tas de personnes comme vous aujourd'hui, malvoyantes, qui sont comme vous en quête vraiment de d'accompagner quelqu'un dans sa vie, de partager sa vie avec quelqu'un, et qui qui ont fait la démarche à un moment et qui ont passé le cap, en fait, ce cap de la pudeur, de penser que c'est pas son truc. Et moi, pour moi, hein, aujourd'hui, même si je trouve que Internet, à plein d'égards, est quelque chose de super dangereux et de super négatif, hein, c'est la force obscure. Et puis, je trouve que beaucoup en font un usage malsain. Y a quand même aujourd'hui cette capacité là avec
ah, mais vous avez raison.
Ces plateformes là et
Thierry Croizon, ça vous parle, qui a plus de bras, qui a plus de jambes,
oui,
bien évidemment. Je l'ai contacté, mais ça par un milieu sport handicap, ouais. Donc on s'est appelé, et c'est Thierry Philippe, lui il a rencontré sa dernière Croizon, compagne sur Internet.
Ouais, c'est Philippe Croizon. C'est
pas Philippe, Thierry. Philippe. Ouais. Il l'a rencontré sur Internet.
Mais
hein.
oui, et vous voyez. Alors, bien évidemment, c'est sûr qu'on se dit bon.
Et il lui avait pas dit qu'il avait plus de bras, plus de jambes. Je sais plus quel humour il m'avait dit, comme il l'avait. C'était génial son approche. Que lui, c'est un gros comique. Hein.
Mais oui, et vous avez pas l'air trop mal non plus, hein, dans le
genre. Ouais, je suis pas mal aussi, pareil.
Et vous voyez, c'est quand même aujourd'hui. Moi, je dis quand même aujourd'hui que cette invention là, l'intelligence de l'homme, hein, sa capacité à créer des choses incroyables.
Bien sûr, non, mais vous avez.
Et ça. Si on le met à bon escient, si vraiment on se dit aujourd'hui ça peut tellement tellement vous mettre en relation avec une personne,
oui,
vous savez, qui est à Strasbourg ou à Brest ou à Paris, une femme qui va avoir les mêmes affinités que vous et qui elle est seule aujourd'hui et comme vous elle cherche, et ben sincèrement moi je trouve que c'est le moyen numéro un de pouvoir se mettre en rapport vraiment. Et
en plus,
et je pense qu'il faut que vous fassiez la bascule et vous voyez que on en discute ce soir.
Non mais je vais vous écouter, je vais essayer de me
parce que c'est pas honteux de faire ça. Vous savez, aujourd'hui, vous rencontrez quand même plein de gens qui se sont mariés, qui ont eu des enfants et puis qui vivent qui tracent un parfait bonheur. Il y a 20 ans.
En plus, je suis libre sur le plan géographique. C'est ça qui est extraordinaire.
Bah
c'est que moi, je suis pas. Je suis pas sédentaire, là. Je peux partir demain.
Vous pouvez bouger, vous vous rendez compte?
Ah oui, j'ai pas de casserole. Moi, j'ai mis ma vie à plat. Moi, j'ai aucun souci, moi.
Je le dis à tout le monde,
j'ai transformé cet handicap en qualité de vie. Hein. Moi, je vais à la boîte aux lettres en sifflant. Hein.
Max, hier, on est mardi aujourd'hui, hein, c'est bien ça?
Oui, on est mardi de 3.
Alors, hier, j'avais un monsieur qui avait 69 ans. Et qui, lui, il avait connu...
En Espagne
Oui, en Espagne, vous l'avez entendu.
Ouais, bah, bon. Je vous ai écouté hier.
Vous voyez, il a osé téléphoner, il a osé se décrire sa situation, parce qu'il n'en pouvait plus d'être seul. Mais on a reçu au moins 10 appels pour lui, et on l'a mis en rapport.
Je le salue, parce qu'il avait l'air sincère, ce monsieur.
Mais oui, et il a bien fait d'appeler, de se mettre un peu... c'est pas facile, hein, on se vend pas, on se met un peu à nu, là, on dit, moi je suis seul, j'en ai ras-le-bol d'être seul, vous habitez la Bourgogne aujourd'hui, vous pouvez bouger, comme vous dites, vous êtes libre, vous êtes marrant, et il y a obligatoirement, ce soir, hein, on évoquait que le handicap, les personnes, tout le monde, là, tous ceux qui nous écoutent ce soir, oublient, il y en a une partie qui oublie que le handicap, ça nous fauche en pleine vie. Hein. Le handicap, finalement, il y a peu de personnes qui sont handicapées dès le début à la naissance. Quoi. C'est un accident, c'est une maladie qui arrive. Et puis
il y a encore plein de barrages par rapport à l'handicap.
Et donc, du coup, vous voyez, il y a plein de gens qui peuvent se retrouver dans une situation de solitude du jour au lendemain. Et moi, quand même, je prône, je dis qu'aujourd'hui, il y a quand même ces applications où on peut... Ouais, on peut faire une belle rencontre, ou en tout cas, ça peut se faire sur
la vie normale. Hein, on peut rencontrer quelqu'un du jour au lendemain. Hein.
Oui, mais c'est vrai que d'un seul coup, avec ces rencontres, vous voyez, vous pouvez arroser toute la France quand même. Et puis il y a une personne.
Mais voyez, j'étais pas dans cette quête-là. Voyez, je vous écoute, Olivier, mais j'étais pas du tout dans cette quête-là. Un domaine que j'ai autant je démarchais dans mon job, c'était impératif puisque autrement je n'avais pas de business. Mais autant sur le plan personnel, je me suis toujours laissé la vie, le destin, quoi.
Ouais, mais là, Vous savez.
Mais là, bon, vous voyez, il y a l'handicap, il y a peut-être que destin, ça freine.
Max, c'est encore le destin, là. Hein. C'est encore le destin, ce soir.
Ouais, vous pensez que c'est encore le destin de provoquer. Bah,
le destin, il fait que, vous voyez, moi, je suis arrivé à la libre antenne fin août.
Oui. Hein,
rien, on en a discuté avec mes patrons à Europe, mais quoi, début juillet. Et puis, le destin fait qu'on parle ce soir, et puis que vous n'étiez pas spécialement pour ça, et puis, bah, on en parle, et puis, vous ne trouvez pas ça. Vous ne trouvez pas que c'est une ineptie de le faire. Donc. Tentez le coup, et puis...
Vous avez raison.
Voilà, et puis dites-moi, j'espère que vous me redonnerez des nouvelles pour me dire si, si c'est un peu mordu, quand même. Et
pour,
si
ça, pour savoir si je suis toujours en quête ou je suis sorti de la solitude.
Bah, avec grand plaisir. En tout cas, écoutez, je vais vous souhaiter quand même essayer de passer de bonnes fêtes, hein, parce qu'il n'y a pas que... Voilà, vous faites bien la cuisine,
non,
vous m'avez dit,
bon,
donc vous allez...
Je suis pas seul dans ma tête, c'est le principal.
Bon, bah très bien, et puis
nous
on est
pas.
Là, hein, à Noël, n'oubliez pas.
Hein, oui, je sais, mais non, mais c'est gentil. Non, mais moi j'en fais pas... j'en fais pas une... les fêtes, c'est pas mon truc,
c'est
pour l'instant.
C'est comme ça, et puis voilà.
Voilà, c'est comme ça, je suis dans un autre trip, moi, voilà. Je suis pas... Je suis plus dans ce monde-là.
Voilà, il faut se mettre dans une autre dimension pour bien les passer, ces fêtes. Et puis essayer de se dire, bon, ben.
Vous voyez, cet après-midi, pour finir, regardez, quand on tiens, je vous parlais un mot de japonais, art martial, kumikata. Kumikata, c'est la prise de garde.
Ouais.
Teddy Riner, s'il m'écoute, il doit savoir de quoi je parle, lui, il est très fort. Ouais. Dès qu'on a prise de garde, c'est nous qui maîtrisons la vie. C'est-à-dire, on prend le kimono et on l'amène à soi. Vous voyez, j'étais voir un centre nautique, un des plus grands de France ici, bassin olympique couvert, des grands meetings internationaux.
Ouais.
Et j'étais un très gros nageur. Je vous mens pas, je nageais une heure et demie sans sortir de l'eau. Il me prenait plus, Olivier, avec ma canne. Je dis, non, faut que tu sois accompagné et tout. J'étais voir le directeur, je lui dis, écoute, je viens, mais pas sans maillot de bain, moi, je viens chez toi. Tous les jours, tu vas me voir travailler avec la canne autour de tes bassins. J'ai fait ça pendant un mois, Olivier. Pendant un mois, il m'a vu tous les jours. Il me laissait rentrer, je travaillais à la canne et tout. Je lui dis, maintenant, tu me suis. Je lui dis, tu vois, je vais te montrer. Il m'a dit, tu peux rentrer tous les jours, tu peux venir nager.
Ben,
voilà.
Vous voyez.
Vous voyez que la volonté.
Ouais. Il n'y a que ça, la volonté, de toute façon.
Il n'y a que ça, mais il faut provoquer.
Exactement.
Les gens, ils vous freinent, il y a un barrage.
Ouais, mais alors, voilà, la finalité de ce qu'on se dit ce soir, c'est qu'il faut déjà compter en premier sur soi. Et vous avez l'air d'avoir vraiment compris ce truc-là. Vous l'avez, la volonté, Max. Donc,
J'ai pas le choix, puis il y a le parcours. Hein.
Ouais,
voilà, c'est la vie qui m'a fait que.
Mais vous êtes dans la continuité de votre père. Je m'inquiète pas trop. Je pense que d'ici peu, je vais avoir de vos nouvelles. J'en suis sûr.
vous êtes adorable. C'est dommage, je suis pas sur Paris. Je vous aurais bien payé un pot.
si vous êtes de passage, ça sera avec grand plaisir.
C'est gentil. Merci, Olivier.
Je vous embrasse, Max. Passez une bonne soirée.
Merci. Au revoir. À bientôt.
Bonne nuit à vous. Au revoir.
Au revoir.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute.